Je suis ravie de vous voir et je suis ravie que nous ayons ici Muriel Gilbert, que vous connaissez tous, donc écrivain, chroniqueuse, traductrice, correctrice. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Gilbert.
Alors bonjour, je suis ravie d'être ici à Bordeaux, dans cette invitée par cette légendaire librairie Mola que je ne connaissais pas. Mais je suis ravie de la découvrir et d'avoir l'occasion de rencontrer des Bordelais. Alors voilà, je suis Muriel Gilbert, comme on vous l'a dit. Je suis là parce que je suis avant tout correctrice au journal Le Monde. C'est ce qui a commencé toute mon aventure en termes de publication et de partage de ce goût de la langue française et de partage donc par les livres et puis par la radio. Voilà. Donc je suis correctrice donc depuis une douzaine d'années. Avant ça, j'ai exercé pas mal de métiers dans la presse parce que, comme vous le savez, la presse en France ne va pas très bien. Et donc, j'ai travaillé dans beaucoup de journaux qui ont fermé les uns derrière les autres, à croire parfois que c'était moi qui faisais fermer les journaux. Mais en tout cas, là, ça fait 12 ans que je suis au journal Le Monde. Je fais attention de ne pas dire je suis au Monde parce que je fais un peu plus que 12 ans. Mais en tout cas, le journal Le Monde, pour l'instant, se porte bien. Donc, en fait, au gré des hasards et non des opportunités, on y reviendra, et donc des fermetures de journaux, j'ai été spécialisée sur des sujets de santé ou d'éducation. J'ai été secrétaire de rédaction, j'ai été traductrice, c'était ma formation d'origine, pour des magazines comme les hors-séries de Science et Avenir et du Nouvel Obs. J'ai aussi traduit quelques livres, surtout des essais sur des sujets géopolitiques. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je suis surtout correctrice. Alors surtout parce que, par ailleurs, il m'arrive de publier quelques petits articles sur la langue française dans le journal Le Monde, mais ça, je le fais vraiment à mes heures perdues, souvent en été, quand il n'y a pas beaucoup d'actualité. Et puis, j'ai une joyeuse petite chronique sur la langue française sur RTL, que vous connaissez peut-être. En tout cas, moi, elle me réjouit beaucoup. J'aime beaucoup faire ça. Et elle s'appelle « Un bonbon sur la langue ». Donc, j'ai publié 6 livres aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'éditeur est derrière pour me rappeler à l'ordre. Et le dernier qui est paru le 10 septembre, donc c'était hier, ou c'était avant-hier, s'intitule « Encore plus de bonbons sur la langue, le français n'a pas fini de vous étonner ». Et donc, il compile les chroniques que j'ai faites sur la langue française à la saison 2018-2019 sur RTL. Donc sur des sujets qui vont des accords pervers du participe passé, non, elle ne s'est pas faite couper les cheveux, ça aussi nous allons en reparler, jusqu'à l'origine surprenante de certains noms de villes, ou savoir si on sabre ou si l'on sable le champagne, ou bien d'où viennent certaines expressions qu'on emploie souvent de travers, comme jouer les mouches du coche ou bien tirer les marrons du feu. Voilà. Alors, le sous-titre de ce livre, c'est un peu le sujet de cette conférence, c'est « Le français n'a pas fini de vous surprendre ». En tout cas, moi, il n'a pas fini de me surprendre, je suis surprise chaque jour. Et en fait, on n'a jamais fini d'apprendre le français. C'est une phrase que je répète souvent, et là aussi, on va y revenir, bien entendu, à de multiples reprises. Et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fini d'apprendre le français ? Parce qu'il est complexe, il est compliqué, mais évidemment, mais il est surtout savoureux, sucré. Il est acidulé, comme un bonbon. C'est pour ça que la chronique et les livres s'appellent « Un bonbon sur la langue » ou « Encore plus de bonbons sur la langue ». Le français est aussi parfois farceur et surprenant. Je dis souvent que, comme son homonyme de chair qui gigote dans notre bouche, le français est souple. Il est vivant, il gigote, il bouge. Mais alors la langue française est en plus farcie, truffée, de règles alambiquées et d'exceptions sans fin. Et selon moi, c'est justement ça qui est rigolo. Alors j'ai un humour de correctrice, c'est pas forcément ce que tout le monde trouve rigolo, parce que quantité de francophones, sans parler des pauvres méritants étrangers qui essaient d'apprendre notre langue, sont paralysés par cette complexité. Ils tremblent à l'idée de faire des fautes, et l'une de mes idées, c'est d'éviter que les gens tremblent, voilà, en essayant d'écrire la langue française. Alors c'est pour ça que j'essaie toujours de les mettre à l'aise en disant « on n'a jamais fini d'apprendre le français, moi-même je n'ai pas fini, j'en apprends tous les jours, j'en oublie un petit peu ». Et j'en réapprends, voilà. Donc personne ne sait tout. Personne ne sait tout sur la langue française. Pas même les correcteurs de presse, qui savent pourtant pas mal de choses, et qui consacrent l'essentiel de leur temps à en apprendre. Et quand on croit en tout cas avoir à peu près fini d'apprendre, eh bien l'Académie française change les règles, ou l'usage de la rue bouleverse les règles, ça se passe souvent dans ce sens-là aussi. L'orthographe, ce ne sont pas les tables de la loi, c'est pas immuable. On va voir, par exemple, comment la simple erreur d'un imprimeur du début du XVIIIe siècle a valu au mot événement son deuxième accent aigu, alors qu'il aurait toujours dû s'écrire avec un accent grave, sur le deuxième E. On verra aussi pourquoi Voltaire détestait les accords du participe passé. Alors, j'ai publié aussi en 2017 un livre qui s'appelle « Au bonheur des fautes », je l'ai là, et qui raconte complètement mon métier de correctrice, ce que c'est que d'être correcteur, comment réfléchit un correcteur, ça réfléchit d'une manière bizarre, et ce métier de correcteur qui est un métier en voie de disparition, alors qu'il serait de plus en plus nécessaire. Ça raconte comment j'ai découvert ce métier. Et bien sûr, ça parle aussi de la langue française et de l'amour, parfois vache, qui me lie à elle. Alors, je vous propose de commencer par présenter rapidement ce métier méconnu, parce que c'est en tant que correctrice que je m'adresse à vous. Et la plupart des gens, quand je leur dis que je suis correctrice, me jettent un regard sans expression. Alors, ça ne leur évoque rien. Correctrice dans un journal, au journal Le Monde. Alors là, ils me disent, mais ça fait des fautes, un journaliste ? Et oui, ça fait des fautes, un journaliste. Et tout le monde fait des fautes. Donc, les journalistes font des fautes. Et d'autant plus quand ils travaillent dans un quotidien, qu'ils n'ont parfois pas le temps de se relire, qu'ils vont écrire très, très vite. Et donc, le fait qu'il y ait des correcteurs dans un quotidien comme Le Monde, ça permet aux journalistes de se consacrer au fond de ce qu'ils écrivent. On est un peu dans un genre de taylorisme. On se partage les tâches pour que chacun puisse aller très vite. On boucle le journal à 10h30. Au Monde, c'est 10h30. Ce n'est pas 10h35. Donc on va voir, je vais vous donner des exemples, vous allez voir que tout le monde fait des fautes, on devrait même plutôt dire des erreurs, donc même les journalistes des plus grands quotidiens, et même les correcteurs qui, oui, sont aussi des êtres humains. On va voir quelles sont les erreurs les plus fréquentes, et puis je partagerai avec vous quelques astuces de correcteurs pour les repérer, pour essayer de les éviter, et puis ensuite je répondrai à vos questions si vous en avez, voilà. Alors, comment devient-on correctrice au Monde ? On me demande ça souvent aussi. Eh bien, essentiellement par hasard. Correcteur, ce n'est pas le genre de profession dont on rêve quand on est tout petit. Tout simplement parce qu'on ne la connaît pas. Donc, c'est très rare que quand une grand-mère demande à son petit-fils « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» qu'il dise « Je serai correcteur mémé ». Voilà. Alors, comment préméditer d'exercer une profession qu'on ne connaît pas ? Mais du coup, les correcteurs sont quasiment tous d'anciens quelque chose. Rares sont les gens qui sont devenus correcteurs à 25 ans. Alors on a d'anciens guides touristiques, d'anciens comédiens contrariés ou ratés, des profs de géo, des bibliothécaires, des secrétaires de rédaction, quelques rédacteurs à l'origine, des étudiants à rallonge qui, vers les 35 ans, se disent qu'il faudrait qu'ils commencent à gagner leur vie et qui sont assez doués en langue. En fait, ils n'ont pas grand-chose de commun à l'origine, les correcteurs, sauf peut-être une boulimie de lecture qui confine au maladif, je dirais. C'est-à-dire que, parce que comment est-ce qu'on devient super fort en orthographe ? En lisant, en lisant tout le temps. Parce qu'on pourrait croire que les correcteurs lisent forcément que de la bonne littérature, la grande littérature, les meilleurs livres, etc. C'est peut-être le cas de certains correcteurs. Pour moi, ce n'est pas juste ça. Pour moi, lire, c'est tout le temps. Ça va du paquet de biscottes le matin, je le connais par cœur, jusqu'au panneau des rues, en passant par les rouleaux de papier toilette quand je suis aux toilettes, les produits d'entretien. Je lis tout le temps. Et je vois les fautes. Alors, le correcteur, c'est bien celui qui faisait « yes » à l'école quand le prof disait « Vous êtes pas sage, sortez une feuille dictée ». Mais il faisait « yes » doucement, parce que c'est pas très populaire dans la cour de récré de faire « yes » à ce moment-là. Donc, tout le monde ne peut pas devenir ou être correcteur. Il y a des gens qui sont très bons, des journalistes, des gens qui écrivent très bien, mais qui ne vont pas avoir ce regard maniaque sur la langue. Voilà. Maniaque de regarder le détail. Voilà. En France, il y a une formation, il y a un diplôme reconnu nationalement de correcteur qui existe depuis les années 80, je ne sais plus l'année exacte, dans les années 80. Aujourd'hui, pour les gens qui se découvriraient une vocation, c'est le Greta de l'école Estienne à Paris dans le 13e qui délivre cette formation et ce diplôme. Bon, en tout cas, pour les correcteurs, quand on voit une faute dans un texte, ça leur provoque quasiment des démangeaisons, de l'urticaire, un besoin de se gratter, d'enlever la faute. Donc ne dites pas ça à mon patron, parce que je risque de ne plus avoir d'augmentation s'il savait que je serais prête à payer pour enlever les fautes du journal. Alors, les correcteurs aiment avant tout leur langue, donc. Mais l'amour de la langue d'un correcteur, c'est pas le même que celui d'un poète ou d'un écrivain. C'est un amour particulier, précis, maniaque, encore une fois. Le correcteur aime la langue comme un enfant de 5 ans aime l'histoire des trois petits cochons. Si vous lui changez la réplique du grand méchant loup à la fin, il n'est pas content. Voilà. Et donc, on est conservateur, quoi. Voilà. Si on me change une orthographe, je la remets d'aplomb, et sans doute parce que ça me rassure quelque part, que ce soit toujours pareil, comme ça. C'est une remarque que font pas mal d'auteurs et de journalistes quand ils parlent des correcteurs. Ils disent que le correcteur a cette particularité un peu paradoxale d'être un brin anarchiste et aussi ultra conservateur. Voilà. Comme les enfants, quoi. Hein, ça. Alors, à noter évidemment que les correcteurs vivent entourés de dictionnaires, qui sont à la fois leur doudou, leur bouée de sauvetage, leur objet transitionnel, et sans lesquels ils se sentent tout nus. Un correcteur sans dictionnaire, c'est pas un correcteur. Voilà. Un bon correcteur ouvre ses dictionnaires 20 fois, 50 fois par jour. Ses dictionnaires de papier, éventuellement maintenant ses dictionnaires en ligne aussi. Encore une fois, ben parce qu'ils ne savent pas tout par cœur, et parce qu'ils ne sont pas infaillibles. Alors, là encore, ça peut vous sembler un peu paradoxal, mais si j'ai écrit un livre qui s'appelle « Au bonheur des fautes », ben, c'est que les fautes, moi, je les aime. J'aime les fautes, j'aime les erreurs. Attention, pas n'importe lesquelles. Celles qui sont commises par tout un chacun. Celles qui sont commises, je dis, en amateur. Voilà. Je ne supporte pas les fautes imprimées, les fautes sur les affiches, les fautes que les professionnels mettent dans le public, parce que là, il s'agit de professionnels qui devraient se donner les moyens, s'ils n'ont pas une orthographe parfaite, et ils sont bien excusables, mais ils devraient se donner les moyens de faire corriger leurs écrits par des correcteurs avant de les mettre dans le public. Voilà. Ce qu'ils font de moins en moins. Alors pourquoi j'aime les fautes aussi? Parce qu'elles sont souvent drôles, en fait, les fautes. Alors évidemment, l'humour de correcteur, j'ai déjà dit, c'est pas forcément l'humour de tout le monde. Mais la coquille la plus mémorable depuis que je travaille au journal Le Monde, c'était au moment où Marina Petrella, si vous vous souvenez, qui était cette ex-membre des Brigades Rouges, devait être extradée vers l'Italie. Et c'était sous Nicolas Sarkozy qui a décidé de ne pas procéder finalement à cette extradition qui était annoncée. Et il a annoncé, c'était en raison de l'état de santé de la personne, de Marina Petrella. Et donc, on a écrit en une du journal que Cecilia Bruni-Sarkozy était allée annoncer elle-même la bonne nouvelle à cette dame. Sauf que Cecilia Bruni-Sarkozy n'existe pas. C'était Carla Bruni-Sarkozy. On s'était mélangé les épouses de Nicolas Sarkozy. Il faut dire qu'il en avait changé très, très vite, qu'elles avaient presque le même nom. Mais alors là, les correcteurs auraient dû voir, bien sûr, mais tout le journal aurait dû le voir, puisque c'était en une du journal. Chacun était capable de corriger cette erreur qui n'était pas une faute d'orthographe. Personne ne l'a vu. Bon, moi, je suis assez contente de pouvoir vous dire qu'à ce moment-là, je marchais en Jordanie dans le désert. Donc, je ne suis pas responsable de cette erreur. Mais en vérité, je suis bien convaincue que je l'aurais laissé passer comme tout le monde. Dans le genre non moins rigolo, il y a la plaque d'hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Charlie Hebdo. Il y avait 13 noms sur cette plaque. On a commis une faute au nom de Volinsky, où on a mis un Y. Volinsky détestait qu'on fasse une erreur sur son nom. Sa femme, d'ailleurs, s'est exprimée sur la chose. Elle a été fort blessée. On pourrait se dire que n'importe qui est capable de relire une liste de 13 noms. En plus, c'est des noms de personnalités, on les connaît. Eh bien non, la preuve que non. Et quand on veut rendre hommage à quelqu'un, la meilleure chose à faire, c'est quand même de s'assurer qu'on écrit bien son nom. Voilà. Alors, pour vous, je vous disais que j'ai toujours aimé corriger les fautes. J'ai retrouvé il y a quelques années une carte postale de vacances d'une copine de 3e. Elle me disait en post-scriptum « Je t'ai mis plein de fautes exprès, comme ça tu pourras les corriger ». Donc, j'aimais déjà corriger les fautes en 3e. Je ne suis pas sûre qu'elle ait mis les fautes exprès, mais elle savait que j'allais les voir. Et donc, bon, déjà, je corrigeais les devoirs des copines. Quand Daniel Pennac a reçu le prix Renaudot, son roman, c'était « Chagrin d'école ». Dans 3 articles différents la même semaine, j'ai corrigé dans Le Monde « Chagrin d'amour ». Ça me touche, moi, de me rendre compte que les journalistes du Monde, quand ils écrivent « chagrin de quelque chose », c'est d'amour, plus que d'école. Voilà, je trouve ça touchant. Quand mon fils, qui vient d'entrer au CP, c'était il y a quelques années, était furax parce que j'ai refusé d'ouvrir une bouteille de jus d'orange à 6h du matin, dimanche, et que je trouve un mot devant ma porte qui dit « je t'aime plus, J-E-T-E-M-P-L-U », je suis touchée en plein cœur, en fait, je suis à la fois amusée et blessée encore plus parce que justement, il ne sait même pas l'écrire. Il s'est donné la peine de trouver une façon, ça doit être compliqué pour lui qui ne sait pas écrire. Et c'est une œuvre unique alors. Les fautes des enfants, je trouve, elles sont magnifiques. Elles nous remontrent aussi, elles nous redonnent un regard différent, tout neuf, tout propre et tout émerveillé sur notre langue. Et quand deux heures après ce message de « je t'aime plus », je trouve devant ma porte un autre message qui dit « bonjour maman », bonjour en deux mots, Et bien d'un coup, je redécouvre la beauté du mot bonjour. C'est ça, bonjour. Hein, c'est le vrai sens du mot bonjour. Alors, j'aime les fautes parce que parfois elles me font rire. Mais parfois, c'est vrai qu'un S en trop suffit à faire rire un correcteur, hein, donc, ou un trait d'union mal placé. Voilà. Mais j'ai quand même corrigé la semaine dernière un poissonneur des Lilas qui m'a fait bien rigoler. Et parfois, j'ai même pas envie de les corriger, quoi. C'était tellement joli. Bon, j'ai filmé la correction, hein, pour la mettre sur les réseaux sociaux, c'était très joli. J'ai eu aussi, il n'y a pas très longtemps, un Emmanuel Macron tombé de son piédestal, P-I-E-D, plus loin, D apostrophe, estal, voilà. Et alors, c'était dans un article fort bien écrit par une journaliste fort aguerrie et qui n'avait quasiment pas fait d'autres fautes. Alors, je me dis, mais comment, elle a, je ne sais pas, 35 ans, 37 ans, comment toute sa vie, elle qui écrit bien, est passée à côté de l'orthographe de ce mot-là, j'en sais rien. Mais finalement, piédestal, si on réfléchit bien, c'est comme les fautes des enfants. Hein. Un piédestal, c'était ça l'origine. Il y a bien un pied dans ce piédestal. Je l'ai corrigé quand même, mais j'aurais aimé le laisser. Alors voilà, et l'autre raison pour laquelle j'aime les fautes, il y en a plein des raisons, mais c'est que les corriger, pour moi, c'est comme un petit jeu. Un petit jeu, comme un jeu vidéo addictif, ou bien faire des mots croisés, ou bien des mots fléchés. Le correcteur, il aime bien chercher les fautes, un peu comme, je prends souvent cette image, comme le chien truffier aime chercher les truffes. Et donc, il faut voir notre œil briller à chaque fois qu'on en trouve une belle. C'est même émouvant, je pense, à voir. Alors, c'est aussi le risque, parce que quand on est tout content d'avoir trouvé une belle faute, comme ce poissonneur des Lilas, il faut que je fasse très attention de ne pas oublier, je ne sais pas, que des Lilas, ça prend une majuscule, parce que c'est la station des Lilas, c'est pas le Lilas la fleur. Parce que quand on trouve une jolie faute, on risque de laisser passer le reste, voilà, d'être tout content, hein, comme le chien qui s'en va en remuant la queue. Alors, la malédiction du correcteur, et c'est ce qui contribue aussi à la disparition de cette profession avec les difficultés financières de la presse et de l'édition, c'est qu'on se rend compte de sa nécessité uniquement quand il n'est pas là. Vous voyez, Volinsky. En fait, c'est un métier un peu de femme de ménage aussi. On époussette la prose des gens. Voilà. Quand vous entrez dans une pièce et qu'elle est propre, vous vous dites pas, ah bah dites donc, le ménage est bien fait ici. C'est juste normal. Voilà. Par contre, s'il y a des papiers partout, vous dites le ménage est mal fait. Et c'est pareil pour les correcteurs. On n'a jamais de félicitations. Moi, je rêve qu'un jour, quelqu'un nous téléphone pour dire « Ouais, super, dans cette page, zéro faute. » Mais personne ne le fait. Voilà. On nous appelle, en revanche, pour dire « Dis donc, tu en as laissé une. Voilà. » Parfois, dans un papier où il y en avait 200. Voilà. D'ailleurs, il y a un lecteur gentil à qui j'avais dit, qui avait dû assister à ce genre de conférence, m'a envoyé une carte postale en me disant « Félicitations, j'ai lu toute une page du Monde, j'ai trouvé zéro faute. » C'était pour me faire plaisir. Voilà. Donc, en tout cas, le correcteur, s'il n'y a pas de faute, c'est normal. S'il y en a une, c'est de la sienne. Voilà. Et malheureusement, comme on le disait au début, en matière de langue, nul n'est infaillible, pas même les correcteurs. Donc, zéro faute, c'est pas possible. La langue est complexe et magnifique. Elle est pleine de notre histoire, donc pas forcément logique, tout ça. Par exemple, mouton ou sapin nous viennent des Gaulois. On a des tas de restes des invasions romaines, évidemment. On verra dans un instant que la règle terrible des accords du participe passé date de François Ier. Le résultat, c'est cette langue qui est dans nos dictionnaires, dans nos manuels, dans nos journaux, dans nos livres d'aujourd'hui, et dont l'orthographe et la grammaire n'ont pas grand-chose de logique, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire souvent, surtout à l'école. La grammaire, en fait, c'est souvent que la tentative d'expliquer a posteriori l'effet de langue, la langue telle qu'elle est. Hein. C'est pourquoi les exceptions sont souvent aussi nombreuses, ou quasiment, que les cas qui se conforment à la règle. Alors, sans compter que la langue évolue sans cesse, c'est le propre d'une langue vivante, hein, par rapport à la différence d'une langue morte, comme le latin ou le grec. Les dictionnaires intègrent chaque année des mots nouveaux, et ils en retirent aussi, bien qu'ils se gardent de communiquer là-dessus. Ils disent jamais qu'ils retirent des mots. Parce que sans doute, il y aurait les défenseurs du mot, j'en sais rien, rémouleur, qui diraient « Non, vous ne pouvez pas retirer rémouleur du Larousse. Voilà. » Alors, actuellement, la féminisation des noms de métiers et de fonctions, c'est le gros chantier, vous n'avez pas pu éviter de le remarquer, mais ça fait bien une dizaine d'années que moi, je le vois monter et venir, ce chantier-là, donc avec, depuis quelques années, des bagarres, des flous, des discussions. Est-ce qu'on doit dire « cette femme est un auteur, cette femme est une auteure, cette femme est une autrice ? Est-ce qu'elle est écrivain ou écrivaine ? Est-ce qu'elle est sculpteuse ou sculptrice ?» Ça, c'est des discussions qui sont en cours en ce moment. Et on est tous, chacun, aujourd'hui, des parties prenantes dans cette discussion. Et si on décide tous aujourd'hui qu'on dira sculptrices, parce qu'on est des sculptrices, on a de fortes chances de réussir à imposer ce mot-là si on décide de le mettre sur nos affiches en tant que sculptrice, sur nos cartes de visite, etc. Donc on est à un moment où on peut vraiment avoir un impact sur la langue française, sur cette chose. Alors, pour revenir au fait que le correcteur n'est pas infaillible, au bonheur des fautes, là, écrit par moi, qui ne fait pas beaucoup de fautes, relu par deux collègues du Monde à qui je l'avais soumis, bon, pas en leur demandant de chercher les fautes d'orthographe, mais plutôt pour les erreurs factuelles sur la façon dont se passe le métier, mais quand même. Et ensuite, relu par deux excellentes correctrices payées par l'éditeur, qui avaient bien l'intention qu'il n'y ait aucune coquille dans cet ouvrage-là, avait encore, si je ne me trompe, 5 coquilles, c'est ça, au moment de la sortie en librairie. Alors heureusement, il a bien marché, donc on l'a réimprimé, et à chaque fois on a corrigé toutes les coquilles qui restaient, maintenant vous pouvez l'acheter tranquille, il est nickel. Hein. Alors quand même, la dernière erreur, et celle qui finalement était la plus importante parce que c'était une erreur de fond, je vous l'avoue, ça me fait mal, je vous le dis quand même, elle a été détectée par un lecteur qui m'a envoyé un courriel, en me disant, qu'il y a un seul... Alors, c'était, je donne un truc pour savoir si les départements sont sur le Loir ou sur la Loire. Voilà. Le Loir sans E, la Loire avec un E, je donne un petit truc. Et je disais, dans la première version de mon texte, allez savoir pourquoi, il y a un seul département sur le Loir. Et il me dit, mais il y en a deux, en fait. Ou alors... il avait tout à fait raison. Hein. Il y a le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir qui sont sur le Loir. Et j'ai dit, ah mince, merci beaucoup, on va corriger dans la prochaine édition. Vous avez corrigé la correctrice. Et il m'a répondu, vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, je lis très, très, très lentement. Donc, je lis avec beaucoup d'attention parce que je suis aveugle. Donc, je vous conseille, si vous avez un livre à faire bien corriger, d'employer un aveugle. Voilà. Donc, il lisait en braille. C'est comme ça que j'ai appris que le livre était sorti en braille, d'ailleurs. Alors, je vais vous mettre peut-être encore plus à l'aise. L'orthographe française, je l'ai déjà dit, n'est pas gravée dans le marbre. Elle évolue. Des preuves. Voyez par exemple le pluriel compliqué d'un nom composé comme chef-d'œuvre. Vous savez peut-être déjà pas où on met les S à chef-d'œuvre. Mais dans son premier dictionnaire, en 1694, l'Académie française préconise chef-d'œuvre pluriel avec deux S, un S à chef, un S à œuvre. En 1718, dictionnaire suivant, elle se ravise. Elle dit non, un seul S, mais à œuvre. En 1740, elle revient aux deux S. Puis 22 ans plus tard, en 1762, c'est le retour du S unique à œuvre. En 1798, revoilà les deux S, jusqu'à 1835, qui entérine chef-d'œuvre avec un seul S, mais à chef cette fois, comme aujourd'hui. Alors, en attendant le prochain changement. Voilà. Donc, quand on dit aux enfants que c'est très grave d'avoir fait une faute au pluriel de chef-d'œuvre, je dirais, c'est juste parce que c'est un enfant d'aujourd'hui, mais s'il était né 100 ans plus tôt, peut-être qu'il l'aurait bien écrit. Alors, le pH de Nénuphar a vécu à peu près les mêmes montagnes russes. La dernière réforme, donc celle qui date de 1990 et qui laisse le choix sur pas mal de graphies, hein, il en a été surtout beaucoup question en 2016 d'ailleurs de cette réforme, donc elle propose de rétablir le F, elle le propose, vous pouvez employer les deux orthographes. Cette modification donc, est facultative. À noter tout de même que ce PH, auquel je tiens moi, parce que je me sens conservatrice et j'ai appris que Nénuphar s'écrivait avec un PH, et Nénuphar sans PH, pour moi, il n'y a pas de fleur dessus, quoi, ou ça flotte pas, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Voilà. Mais donc, les dictionnaires écrivaient Nénuphar avec un F jusqu'à 1935, en fait. Et en 1935, l'Académie, dans sa grande générosité, a décidé de rendre, entre guillemets, son PH à Nénuphar, pensant que Nénuphar venait du grec. Sauf que Nénuphar vient de l'arabe, en fait. Donc, il n'aurait jamais dû, il aurait dû toujours être écrit avec un F. Voilà. Donc, en tout cas, les deux graphies sont possibles aujourd'hui. Tout ça, encore une fois, pour marteler un message, l'orthographe n'est pas gravée dans le marbre. Voilà. Donc, les dictionnaires, même celui auquel travaillent sans relâche les académiciens, ben, ne font usage finalement. Ça signifie que la langue française, ben, elle appartient à qui ? À ceux qui la parlent, à ceux qui l'écrivent, à vous, à moi, à nous tous. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec un exemple, mais là, si tous les francophones font tous la même faute, ben, elle n'en sera bientôt plus une et elle sera bientôt entérinée par les dictionnaires. Laissez-leur 20 ans pour l'admettre, hein, pour la digérer. Voilà. Un autre exemple donc, que j'ai évoqué en introduction, alors que les dictionnaires prescrivaient événement avec deux accents aigus sur les E, tout le monde en France, sauf les maniaques d'orthographe et les correcteurs de presse, dont évidemment je fais partie, écrivait événement, avec un accent grave sur le deuxième E, et c'était bien naturel, puisque c'est comme ça, en fait, que les gens le prononcent bien souvent. Eh bien, cette orthographe, en fait, elle est finalement donc entrée dans les dictionnaires en 1990, là encore, à côté de l'autre. Donc, vous pouvez utiliser les deux graphies. Mais le plus joli dans cette histoire, c'est l'origine délicieuse et incroyable, je trouve, de ce deuxième accent aigu, qui embêtait tout le monde, et que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps grâce à un courriel de l'éminente linguiste Henriette Walter. Elle m'écrit, donc je vous cite ce qu'elle m'écrit. Elle me dit « Cette aberration graphique n'est pas le produit d'une décision mûrement pesée, pas du tout, mais résulte d'un manque momentané de matériel d'imprimerie. L'histoire remonte au début du XVIIIe siècle, époque à laquelle on commençait à adopter les accents, donc l'accent grave « est », en le distinguant de l'accent aigu « est ». L'imprimeur du dictionnaire de l'Académie française n'avait pas fait fondre assez de caractères accent « e » accent grave. Quand il en fallait plusieurs dans une page, du coup, il lui arrivait d'en manquer. Et c'est ainsi que dans l'édition du dictionnaire de l'Académie française de 1740, « événement » comporte deux « et ». Mais il est arrivé la même chose au mot « mère », qui est écrit « mère » dans ce dictionnaire. « Ma mère », voilà. Alors, arrivé à la lettre « P », l'imprimeur avait sans doute eu le temps de faire fondre de nouveaux caractères, dit Henriette Walter, parce que le mot « père », lui, a bien son accent grave. Donc, pourtant, la forme « événement » n'a pas été corrigée dans l'édition suivante et a gardé jusqu'au XXe siècle, donc, son accent aigu sur la deuxième syllabe. Donc, voyez à quoi tiennent parfois des zéros en dictée. Hein, voilà. Donc, c'est là où, moi, je trouve que la langue française est délicieuse et farceuse. Et les dictionnaires aussi, parfois. Il y a un spectacle sur l'orthographe qui a tourné pas mal en France. Je ne sais pas s'il est déjà venu à Bordeaux. Il a tourné en France et en Belgique parce qu'il est... c'est un spectacle proposé par deux Belges. On les a entendus sur France Inter cet été aussi. Ils s'appellent Arnaud Haute et Jérôme Piron. Leur spectacle s'appelle « La convivialité ». Il y a un livre, d'ailleurs, qui comporte tout le texte du spectacle aussi, qui est peut-être en vente dans cette excellente librairie Mola, je ne sais pas. Ce spectacle, je vous le conseille. Si vous vous intéressez à la langue française et à l'orthographe, vous ne serez peut-être pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais leur spectacle, c'est un délice de drôlerie et de finesse. Leur thèse, eux, disent, Arnaud Haute et Jérôme Piron disent, « En français, on juge votre orthographe. » Ils sont d'ailleurs respectivement professeurs de français et de religion catholique à Bruxelles. Alors ils disent, en français, on juge votre orthographe, mais on ne juge jamais l'orthographe elle-même. Les francophones confondent souvent l'orthographe et la langue. Mais l'orthographe, c'est l'écriture de la langue, pas la langue elle-même. Bref, c'est un outil. Et la question, c'est cet outil, est-il le bon ? Alors évidemment, pour eux, vous avez compris, la réponse est non. Donc eux, ils veulent réformer. C'est eux qui proposaient à la rentrée dernière de réformer le participe passé, de tout simplifier, etc. Ils disent... Pourquoi mettre un T à édit ou à bruit, comme dans éditer et dans bruiter, mais pas à abri, alors qu'on dit abriter ? La salle s'esclaffe quand ils font remarquer que la confiture de groseille prend un S à groseille, en gros parce qu'on aperçoit la forme des fruits, alors que la gelée de groseille ne prend pas de S à groseille, parce que c'est une masse informe, en fait. Ils en concluent fort logiquement que donc le S à groseille dépend du temps de cuisson. Et vous savez quoi ? Ben, le pire, c'est que c'est vrai. Alors, la différence, donc, comme je l'ai dit, entre ces deux comiques intéressants et moi, ben, c'est que ces incongruités, à moi, elles font ma joie. Voilà. Eux sont pour tout simplifier. Pour moi, le français a une orthographe magnifique, en partie grâce à toutes ces incohérences, en fait. Mais c'est vrai qu'avec une orthographe ben, aussi alambiquée, aussi complexe, ne pas faire de faute du tout, c'est un défi quasiment impossible à relever. Mais selon moi, tout est dans la façon de prendre la chose. C'est un jeu compliqué, mais on gagne à tous les coups, à quoi bon jouer ? Je veux dire, des mots croisés, si vous savez tout remplir sans réfléchir jamais, vous n'avez même plus envie de les faire. Ben, c'est comme ça la langue française. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, je ne résiste pas à vous parler de quelques règles et particularités bien alambiquées, et qui pour moi, elles sont si alambiquées qu'elles en sont drôles. Peut-être commencer par le sexe des mots. On dit le genre. Hein. C'est l'une des principales difficultés du français pour qui n'est pas tombé dedans quand il était petit. Cette répartition masculin-féminin n'a aucune logique. Ou presque. Donc ceux qui ont le courage évidemment d'étudier notre langue et qui sont des étrangers s'attendent à ce que, par exemple, en principe, les mots qui se terminent par un E muet soient féminins. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas, hein, loin de là. On dit un manque, un modèle. En revanche, pour les mots en « être », ils pourraient presque tranquillement compter sur le genre féminin. une bicyclette, une assiette, une cachette, une camionnette. Bon, sauf qu'il y a quand même un mot masculin assez utilisé qui se termine en « ette », squelette. Alors, pour une fois, c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que la liste des exceptions qui confirment la règle n'est pas aussi longue que celle des mots qui s'y conforment. Mais enfin, il y a quand même d'autres mots en « ette » qui sont des masculins, mais ils sont souvent composés avec des noms féminins, comme un bébé éprouvette, un pique-assiette ou un casse-noisette. Et puis, il y a quelques termes militaires, un trompette. Mais le sexe des mots, ou des noms en français, ne piège pas que les étrangers. Des mots comme tentacule, ou solde, ou oasis, par exemple, plongent pas mal de francophones dans des abîmes de perplexité. Tentacule, à toutes fins utiles, est masculin. Un tentacule. Oasis, féminin. Solde. Alors solde, voilà un mot sur le genre duquel bien peu de gens hésitent à se tromper. Voilà. Solde est masculin. Sauf si on parle de la solde qui a donné son nom aux soldats. Donc on dit des soldes fabuleux. Le nombre de fois où je vois des soldes fabuleuses écrites sur les vitrines, ça me donne des plaques. Et alors, le sexe des noms... Moi-même, je ne le connais pas par cœur pour tous les noms, en fait. Et donc, pour les plus compliqués, pour ceux qui sont compliqués pour moi, qui ne sont pas forcément les mêmes que pour vous, d'ailleurs, j'ai mes petits moyens mnémotechniques. Je vais partager avec vous, mais vous n'avez pas forcément les mêmes difficultés que moi. Anagramme. Anagramme. Un anagramme, une anagramme, c'est une. Une anagramme. Anagramme est féminin. Pourquoi est-ce qu'on a envie de dire un anagramme ? Parce qu'on dit un kilogramme, je pense. Un décigramme, un milligramme, un anagramme. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas du tout le même gramme. Et donc, pour moi, qui ai la même difficulté, hein, j'ouvrais souvent mon dictionnaire pour vérifier si anagramme était masculin ou féminin, eh bien, je me dis, on prononce une anagramme. Qu'est-ce qu'il y a de plus féminin qu'une nana ? Voilà, une anagramme. Astérisque, obélisque. C'est des garçons comme les Gaulois. Voilà, un astérisque, un obélisque, comme les guerriers gaulois. Autoroute, alors ça, beaucoup de gens font l'erreur, et donc je vous le dis, pour moi, ça posait pas de problème, autoroute. On dit une auto, une route, une autoroute, mais beaucoup de gens disent un autoroute, j'ignore pourquoi. Oasis. Oasis, moi, c'était un des mots qui me posait problème aussi. C'est féminin ou masculin pour vous, oasis ? J'entends de tout. Alors, oasis est féminin. Et donc, pour moi, je me dis, l'oasis est féminin comme l'eau qui irrigue l'oasis. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais finalement, est-ce que le plus étrange, c'est pas que le mot féminin soit du genre masculin ? Voilà. Je sais pas. À côté de ça, il y a les mots que j'appelle bisexuels, entre guillemets. Peut-être qu'on devrait dire plutôt même hermaphrodite. En tout cas, il y a des mots qui sont à la fois filles et garçons. Le terme exact, c'est épicène, du nom de, je sais pas si vous avez lu le dernier roman d'Amélie Nothomb, ou peut-être je suis en retard d'un roman parce qu'elle en sort tellement souvent. Ouais, c'est le précédent, qui s'appelait Les prénoms épicènes. Donc il y a des prénoms épicènes, comme Claude et Dominique, qui sont des prénoms de ces héros, je crois, dans ce bouquin-là. Mais il y a aussi des noms, comme enfant ou adulte. On peut dire un enfant ou une enfant, un adulte ou une adulte, un ou une élève, un ou une malade. Voilà. Donc ça, ce sont des noms épicènes. Et puis il y a des noms étranges, qui ne désignent pas des personnes et qui pourtant peuvent aussi être au choix masculin ou féminin. C'est le cas de enzyme, par exemple. Quand j'étais petite, à la télé, il y avait la pub pour les enzymes gloutons. Ben, j'ai appris qu'on pouvait dire des enzymes gloutonnes. Voilà. Interview. Interview, c'est un mot anglais. Donc, il est entré en français en hésitant sur le genre à adopter. Il continue d'hésiter. Donc, vous pouvez écrire un ou une interview, comme ça vous chante. On préférera entretien, si on peut, quand même. Voilà, c'est ce que j'essaye de mettre. Alors, il y en a un autre, très fréquent, sur le genre duquel beaucoup de monde hésite, si j'en juge par le nombre de fois où on me pose la question. Et pourtant, c'est un mot très courant, après-midi. On peut dire un ou une après-midi, les deux sont aussi jolis et aussi validés par les dictionnaires. Tant qu'on y est, on peut dire un tic et une tique, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Hein. Un tic nerveux sur le visage, TIC, une tique sur un chien, par exemple. Et puis alors, les plus bizarres, ce sont ces trois noms célèbres de trio, amour, délice et orgue. Voilà. C'est les trois seuls noms de la langue française qui sont masculins au singulier et qui peuvent changer de genre au pluriel, en tout cas dans une langue châtiée. Donc on peut célébrer nos belles amours au son des grandes orgues dans des délices merveilleuses. Voilà. Le plus pervers de tous sur le genre, quand même, c'est le mot « gens ». Les gens, G-E-N-S. un mot banal qu'on utilise tout le temps, et toujours au pluriel quand même, hein, il a cette particularité, mais il ne se gêne pas pour devenir féminin quand il est immédiatement précédé d'un adjectif épithète. C'est pour ça qu'on dit « ces gens sont bons » ou « ces gens sont gentils », mais « de bonnes gens ». Voilà. Pire, ce mot peut aller jusqu'à changer de genre dans une même phrase, ce qui, reconnaissons-le, est un chouïa déstabilisant. Donc, on dira donc « ces vieilles gens sont des crétins », par exemple. Bref, méfiez-vous des gens. Moi, quand j'en croise, je sors mes dictionnaires pour être sûre que je ne me trompe pas. Alors, il y a une autre règle assez rigolote que j'aime bien, c'est la règle des adjectifs de couleur. Elle est pas mal non plus, quand même. Ça, les étrangers n'en reviennent pas. Hein. Pourquoi est-ce qu'on écrit des yeux bleus avec un S à bleu et des yeux marrons sans S à marron ? Est-ce que vous savez qu'un pré avec des vaches noires et blancs, c'est pas la même chose qu'un pré avec des vaches noires et blanches ? Ce ne sera surtout pas les mêmes vaches, on va y revenir. Alors, les adjectifs de couleur, comme les autres adjectifs, s'accordent en genre et en nombre. On est d'accord en principe. De jolies robes rouges, des S partout. Des crétins verts de rage, des S aux adjectifs. Mais si la couleur est exprimée donc par un nom commun employé comme adjectif, comme marron, orange ou émeraude, alors ça ne s'accorde pas. Des ceintures crème, sans S à crème. Des yeux émeraude, sans S à émeraude. Des labradors, chocolat, sans S à chocolat. En fait, on peut comprendre ces formules comme ce qu'on appelle des ellipses, c'est-à-dire c'est des ceintures de la couleur de la crème, des yeux de la couleur de l'émeraude, des labradors de la couleur du chocolat. Voilà. Il y a 6 exceptions et je me demande s'il n'y en a pas 7, d'ailleurs, parce que j'ai réfléchi à quelque chose. Il y a 6 exceptions, en tout cas, que j'ai lues dans les livres, dans mes manuels. Vous allez me dire si, comme moi, vous trouvez qu'il y en a une 7e. Les exceptions, c'est écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre et rose. Donc la rose, c'est bien un objet, mais des chaussures roses prennent un S. Voilà. Et, idem pour la mauve, qui est une fleur, idem pour fauve, incarnat, etc. Mais violette, il me semble que fait partie des exceptions. On dit bien des chaussures violettes avec un S à violette. Et pourtant, ce n'est pas dans les livres. Donc là, il faut que j'enquête là-dessus parce que je viens de le découvrir, cette bizarrerie. Donc il y aura peut-être une chronique bientôt à la radio sur le sujet. C'est une découverte qui date de ce matin. Donc voilà, je ne suis pas encore au point sur la question. Donc, il y a aussi les adjectifs de couleur composée qui sont invariables. Donc, on dira des baskets rouges avec un S à rouge, mais des baskets rouges pétards sans S à rouge ni à pétard. Des cheveux blonds avec un S à blond, mais des cheveux blonds foncés sans S à blond ni à foncé. Des yeux bleu-vert, sans S à bleu ni à vert. Et c'est pour cette raison qu'un pré dans lequel vous voyez des vaches noires et blancs, vous n'y voyez pas les mêmes vaches que dans un pré avec des vaches noires et blanches. Noir et blanc, on considère que c'est un adjectif de couleur composée, donc ça désigne des vaches qui sont à la fois noires et blancs. Elles sont bicolores, en fait. Tandis que si c'est un pré avec des vaches noires et blanches, alors il y a des vaches toutes noires et des vaches toutes blanches. Ça marche pour les chats. Ça marche pour tous les animaux, mais même pour les chaussures. J'ai déjà eu une question comme ça. Une fois, j'ai appelé un rédacteur du Monde en disant « Ton papier mode, là, sur les défilés, les chaussures sont toutes noires et d'autres toutes blanches, ou alors elles sont bicolores ?» Et il m'a demandé « Mais qu'est-ce que ça peut te faire ?» J'ai dit « Est-ce que ça ne s'écrit pas pareil, c'est tout. Tu as écrit des chaussures noires et blanches, je veux savoir si elles sont bicolores ou pas. » Alors, bon, évidemment, la pire des règles, c'est celle de l'accord du participe passé. Hein. De l'accord du participe passé, non pas avec le sujet, tiens, ça serait trop simple, mais avec le complément d'objet direct, et uniquement s'il est placé avant le verbe « avoir ». Alors, cette règle, c'est l'œuvre d'un poète, qui s'appelle Clément Marot, qui était poète officiel de François Ier. Donc, il a formulé cette règle au XVIe siècle, il revenait d'Italie, et apparemment, il s'est inspiré de l'italien, qui était l'Italie, c'était la grande mode, on voulait tout faire comme les Italiens. Et depuis, les Italiens pas fous s'en sont, paraît-il, pour l'essentiel débarrassés. Je ne parle pas italien, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc, Becherel, qui n'est pas réputé pour être un grand révolutionnaire, dit quand même que c'est la règle la plus artificielle de la langue française. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que les deux Belges qui ont commencé à s'attaquer au participe passé pourraient bien avoir raison de l'accord du participe passé d'ici peut-être aller en France 10 ou 20 ans, mais ça pourrait bien, ils pourraient bien trépasser ce participe passé. Alors, il y a même Voltaire, donc j'en parlais au début de mon exposé, qui s'énerve et qui dit « Clément Marot a ramené deux choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé, et je pense que c'est le deuxième qui a fait le plus de ravages. » Donc, vous voyez. Voilà. Donc, les Belges ne sont pas les seuls à ne pas être des adeptes de l'accord du participe passé avec le verbe avoir. Alors, je vais vous donner quelques exemples de participes passés bizarres, qui, pour moi, sont rigolos tellement ils sont bizarres. Il y a, par exemple, celui de l'accord de participe passé avec des verbes de perception. Les verbes de perception, c'est entendre, écouter, voir, sentir. Alors là, ils ne s'accordent que si c'est le sujet du verbe à l'infinitif qui accomplit l'action. Je vais vous donner des exemples. Si on parle de... Je vais parler de la Marseillaise, le chant. Hein. La Marseillaise que j'ai entendue chanter, on n'écrira pas « entendu » pareil que dans une phrase qui serait « la Marseillaise que j'ai entendue s'élever de la foule », par exemple. Parce que la Marseillaise que j'ai entendue chanter, c'est pas la Marseillaise qui chante. C'est quelqu'un qui chante la Marseillaise. Dans le deuxième cas, la Marseillaise que j'ai entendue s'élever de la foule, c'est bien elle qui s'élève. Et donc, dans le deuxième cas, on écrira « entendu e ». On accordera avec la Marseillaise. Pour la même raison, on peut écrire de deux façons différentes. La chanteuse que j'ai entendue applaudir. Selon que, dans un cas, elle est applaudie, et dans l'autre cas, elle peut applaudir son orchestre ou son public. Si c'est elle qui applaudit, alors « entendu ue ». De même, on n'écrira pas pareil la pièce de théâtre que j'ai vue jouer ou la comédienne que j'ai vue jouer. Parce que dans le deuxième cas, c'est bien la comédienne qui joue. La pièce de théâtre, elle, ne joue pas. Donc la pièce de théâtre que j'ai vue VU jouer, la comédienne que j'ai vue VUE jouer. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques fautes récurrentes des journalistes. Loin de moi l'idée de leur jeter la pierre. Si les journalistes ne faisaient plus de fautes, il n'y aurait plus de correcteurs. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les journalistes qui travaillent dans un quotidien ont toutes les excuses pour laisser quelques fautes. Mais les journalistes, donc, ont tendance à faire beaucoup d'anglicisme, par exemple. Ah, ils ne sont pas les seuls. Hein. Mais dans le domaine du business, pardon, des affaires, et, ou de l'économie en particulier, c'est vraiment flagrant. On est envahi par les start-up, les challenges, le buzz, le sponsoring, c'est bien simple, on frise le burn-out. Alors, à start-up, il n'est pas interdit de substituer jeune pousse, bien que les journalistes du Monde ne soient pas très amateurs de jeune pousse. J'arrive à le substituer une fois sur deux pour dire ah, « tu as fait une répétition voilà. ». Un défi, en revanche, est au moins aussi complexe à réussir qu'un challenge. Donc ça, j'arrive assez bien à le changer. Ça ne les chagrine pas trop. Oh, mais il y a plein de ces anglicismes qui sont à l'origine des mots français. Hein. Tout à fait. Mais c'est les utilisations voilà, qui ne sont pas adéquates dans la langue française d'aujourd'hui, encore une fois. Et donc, le parrainage ben, rapporte au moins autant que le sponsoring. Voilà. Mais je voudrais évoquer des anglicismes plus pervers, des anglicismes qui s'insinuent discrètement en français et que les francophones reprennent bien souvent sans s'en rendre compte. Si je vous dis « ce salon dédié au cinéma, initié par le ministère en charge de la culture, est une mine d'opportunités pour les producteurs de films », est-ce que quelque chose vous choque ? En général, non. Et pourtant, cette phrase est bourrée, truffée, farcie d'anglicismes, parmi lesquels quatre des plus vilaines bêtes noires des correcteurs, dédiées, initiées, opportunités et en charge d'eux. Alors pour commencer, en français, on ne saisit pas une opportunité. À la différence de l'opportunity anglais, qui signifie une occasion, une chance, opportunité désigne selon le Larousse le caractère de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. On parle de l'opportunité d'une démarche, par exemple. Dédié, même maladie. Il n'a pas le sens du dedicated anglais. En français, on peut dédier une chapelle à un saint, on peut dédier un livre à sa maman, mais pas un site web aux blagues belges ou pas un salon à l'industrie laitière. En charge de. Là aussi, c'est un calque de l'anglais. En anglais, on dit in charge of. Là aussi, ça vient du français, hein, bien sûr, in charge of. Mais en français, on n'est pas en charge d'un ministère ou d'un projet, bien que ce soit souvent comme ça que sont donnés les intitulés des postes des ministres. On est chargé ou on est responsable d'un projet. Donc on est chargé d'un projet, pas en charge. Et n'oublions pas donc initié, qui n'a pas le sens anglo-saxon de lancer, créer, qu'on lui attribue le plus souvent, sans doute en imaginant que c'est plus chic ou élégant, alors que c'est juste inexact. En français, on s'initie à l'orthographe, on s'initie au golf ou aux échecs, et ça signifie qu'on en apprend les rudiments. Les bases. Alors, il y a une expression américaine qui est très à la mode depuis la campagne présidentielle de Donald Trump, c'est les fake news. On trouve ça partout dans les journaux. Et là, pour tenter de couper l'herbe sous le pied autant que possible à cet anglicisme qui était vraiment en train d'envahir, de tout envahir, il y a la commission d'enrichissement de la langue française, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a réagi pour une fois assez rapidement et qui a proposé le terme « infox », qui, selon moi, n'est pas mal trouvé. D'abord, il est court. Et bon, info, intox, voilà, c'est un mot valise, ça marche assez bien, mais maintenant, bah, c'est à nous tous. Si on a envie que ce soit ce mot-là qui s'impose, bah, de l'utiliser. Cette commission d'enrichissement de la langue, c'est une émanation du ministère de la Culture qui a été créée en 1996. C'est assez intéressant, ces travaux. Par exemple, si vous allez voir sur son site internet qui s'appelle culture.fr/france-terme, enfin, on trouve ça sur Google, vous verrez que l'un des chantiers récents a été consacré au mot « nègre ». Quand il est destiné à être signé par un autre. Dans l'ensemble des dictionnaires actuels, le mot « nègre », quand il est employé pour désigner une personne de couleur, donc, est considéré comme dépréciatif, péjoratif, raciste, vieilli. Et l'usage du mot donc, ne perdure quasiment plus que dans l'édition, dans cette acception de « auteur caché ». Voilà. Et donc, du coup, les gens sont gênés de l'utiliser. Et le mot anglais « ghostwriter », enfin l'expression anglaise « ghostwriter », qui veut dire auteur fantôme, hein, était en train de s'imposer. Donc, là encore, la commission d'enrichissement de la langue a proposé d'utiliser le terme de prête-plume, qui est déjà utilisé au Québec. Les Québécois sont très en avance dans cette lutte contre l'invasion de l'anglais. Ils ont une grande habitude de lutter contre ça. On propose aussi auteur caché ou plume cachée, etc. Bon, là encore, c'est à nous de voir si on a envie d'aider ces termes à s'installer ou pas. Je vais vous parler d'un spécial dédicace de journaliste sportif. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? C'est la troisième victoire consécutive du PSG sur l'OM, ou de l'OM sur le PSG, hein, c'est pareil pour la langue française. Consécutif, là, l'utilisation n'est pas juste, parce qu'on l'emploie souvent, sans doute encore une fois par recherche d'élégance, à la place de successif ou de suite ou d'affilée. Consécutif dans cette utilisation-là est obligatoirement un pluriel. On pourra parler de, on pourra dire par exemple, le PSG a battu Marseille dans 3 matchs consécutifs. Mais la troisième victoire consécutive, ça n'existe pas. Voilà. Toujours un pluriel. Ou si on préfère rester au singulier, ben, c'est la troisième victoire d'affilée. Voilà, ça marche très bien. En somme, ne nous compliquons pas la vie. Dans bien des cas, on fait des erreurs en essayant de faire trop bien. Voilà. Donc, puisqu'on y est, second n'est pas une version chic de deuxième. Second, dans une langue un peu châtiée, bien sûr, c'est le deuxième quand il n'y a personne d'autre derrière. Hein. Par exemple, donc c'est d'une série dont c'est le deuxième et dernier élément, en fait. Du coup, sur le Tour de France, impossible d'être second, à moins que tout le monde ait abandonné derrière. Hein. Voilà. D'autres petits mots comme ça, grille et quiz. Mais le nombre de fois où ça me gratte, grille et quiz, parce que je les vois partout, avec deux L ou deux Z à la fin, grille et quiz, en français, ne prennent qu'une seule consonne finale. Le grille peut avoir deux L quand il s'agit du restaurant, mais le grille du four a un seul L. Le grille du restaurant, bah, c'est un mot anglais, en fait. Prolixe. Ne dites pas de votre romancier préféré qu'il est prolixe. Prolixe, ça veut dire, définition du Larousse, qui est trop long, diffus, chargé de détails inutiles. Un auteur prolixe, donc, se perd en développement superflu. C'est pas très flatteur. On dira un auteur prolifique, hein, ça veut dire qu'il écrit beaucoup. Une fois, j'ai corrigé ça aussi à un auteur du Monde des Livres, j'ai remplacé son auteur prolixe par un auteur prolifique, il m'a appelé, il m'a dit « mais prolifique, c'est pour les lapins ». J'ai pas seulement, c'est aussi pour les auteurs. Voilà. Parfois, il faut se battre hein, pour imposer les corrections. Voilà. Voilà. Alors, tel. Tel s'accorde avec le nom qui le suit. Tandis que tel que s'accorde avec celui qui précède. Donc, on écrit certaines langues tel, T-E-L, le turc, mais certaines langues tel que, T-E-2-L-E-S, le turc. Voilà. Ceci ou cela ? Est-ce que ceci est une version plus chic de cela ? Mais non. D'abord, ceci est plus près de moi que cela. Hein ? Et puis, mais surtout dans le texte écrit, ceci annonce ce qui va être dit. Tandis que cela reprend ce qui a été dit. Donc, on ne devrait jamais dire ceci dit. Ceci dit n'existe pas. C'est cela dit. On pourrait dire « Mamie est une bête en orthographe. Cela dit, il lui arrive de faire des fautes. » Ou « Certes, il lui arrive de faire des fautes, mais je vais te dire ceci. Mamie est une bête en orthographe. » Voilà. Voilà. Donc ceci précède ce qu'on va dire. Tout ou toute. Alors celui-là est pas mal non plus. Mais tout a plusieurs fonctions et plusieurs sens, et c'est pour ça qu'il nous piège en fait. Quand on peut le remplacer par entièrement, totalement, comme si je dis Muriel est habillé tout en bleu, ce qui est faux, mais ça fait rien. Et bien là, il est adverbe, puisque c'est comme si j'étais complètement en bleu, entièrement en bleu. Là, il est adverbe, donc invariable. On retient un peu, comme on a appris ça à l'école, les adverbes sont invariables. Donc on dira une femme tout en rouge, T-O-U-T, des garçons tout heureux, T-O-U-T, pas tous heureux. Il y a une exception, bah oui, parce qu'on est en français quand même. Donc tout s'accorde avec un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. C'est pour ça qu'une phrase, on pourrait avoir une phrase un peu bizarre comme ça, les deux femmes sont toutes étonnées, T-O-U-T, mais l'une est toute heureuse, T-O-U-T, mais l'autre est toute honteuse, à cause du H aspiré. Des taches ou des taches sur les doigts. Le nombre de fois que je corrige ça. Mais j'adore cette faute, c'est une des plus fréquentes. Et en fait, je l'aime beaucoup parce qu'elle elle marque une espèce d'envie de bien faire chez le rédacteur. Moi, je le vois tirer la langue en mettant son accent. Il se dit, ah oui, je sais que la tâche, il faut un accent. Alors, l'accent, il le faut uniquement sur la tâche à accomplir, qui pèse de tout son poids. Voilà, c'est comme ça qu'on peut s'en souvenir. Voilà. Autrement, la tâche de gras, elle est immaculée, elle. Rien dessus, voilà. Vous donner un petit truc sur écrire les nombres en lettres. C'est parfois un vrai casse-tête avec les traits d'union, les pluriels, les pas de pluriels, etc. Il y a un site internet qui est super là-dessus, qui s'appelle leconjugueur.lefigaro.fr. Et alors ce site qui est un excellent conjugueur, donc vous avez une petite case où vous pouvez entrer n'importe quel verbe, et ça va beaucoup plus vite que d'ouvrir votre bouquin de conjugaison. Mais vous pouvez aussi dans cette petite case, et c'est écrit nulle part, donc c'est top secret, vous pouvez écrire un nombre aussi long que vous voulez, vous appuyez sur « Entrée » et il vous l'écrit en lettres, et même avec les propositions des différentes réformes orthographiques, donc vous avez avec ou sans trait d'union partout, etc. C'est très pratique. Alors, on pourrait continuer longtemps, mais j'en profite pour vous parler de « etc. ».« Etc. », on écrit « etc. point », pas « etc. » trois points de suspension. Le point après « etc. », c'est un point abréviatif, l'abréviation hein, de la locution latine qui se dit « et cetera desunt » ou « et cetera », je ne sais pas comment ça se prononce, et qui veut dire « et les autres choses manquent ». Donc si vous mettez trois points après « etc. », ben, c'est une sorte de pléonasme. Alors il y a quand même des fois où on ne sait pas, des fois où on ne trouve pas la solution. Des fois où on n'a pas le temps de chercher dans un quotidien, ça arrive souvent à 10h30, c'est bouclé, c'est pas le moment d'aller fouiller dans nos dictionnaires. Et donc là, moi, je dis toujours qu'il n'est pas interdit d'être malin, roublard même. L'autre jour, sur une radio qui n'était pas RTL, j'ai entendu un étranger qui téléphonait pour partager son truc. Il disait qu'il ne savait jamais s'il devait demander un ou une baguette. On parlait du genre, de la difficulté du genre pour les étrangers. Et il disait, vous ne savez pas mon truc. C'est un peu plus cher, mais ça marche. Je demande deux baguettes. Alors évidemment, avec un canapé, c'est plus compliqué. Mais avec les baguettes, c'est encore jouable. Et pour finir, je vais vous raconter ma bande genre roublard. C'est l'histoire d'un directeur de zoo qui voudrait ajouter deux animaux à la gamme de quadrupèdes qu'il présente à la curiosité des badauds. Et donc, il opte pour cet élégant élan nord-américain qu'on appelle orignal. De sa plus belle plume, là, il écrit à un confrère canadien et il lui demande « Cher collègue, accepteriez-vous de me vendre deux orignaux ?» Puis le pluriel lui semble un peu douteux. Alors il recommence. « Accepteriez-vous de me vendre deux orignales ?» avec un S. Et il hésite encore. Il se dit « Oh là là, c'est bizarre. » Puis soudain, il a une idée. Il recommence. Il dit « Cher collègue, accepteriez-vous de me vendre un orignal ?» Et il ajoute « Post-scriptum. Tant que vous y serez, mettez-moi donc un deuxième. Voilà. » Donc voilà. Vous ne connaissez pas une orthographe, rien ne vous interdit d'être malin. Et post-scriptum, le directeur du zoo a de bonnes raisons de douter parce que Larousse.fr dit deux orignales avec un S, tandis que Larousse en papier et le Robert penchent pour les orignaux. Donc vous savez quoi, si jamais il vous faut vraiment ces bêtes-là, commandez des élans. Voilà. Alors, je tiens à votre disposition ce que j'appelle la boîte à outils du correcteur, qui est toute une liste de livres spécifiques sur les difficultés de l'orthographe, etc., qu'utilisent les correcteurs, plus un certain nombre de sites qui sont particulièrement fiables. Je peux l'envoyer à qui me la demandera, à murielgilbert@yahoo.com, ou bien en passant par la librairie, je pourrais faire suivre cette petite liste que je ne vais pas vous dicter.
Bien, merci beaucoup Muriel Gilbert.
Merci.